La guérison du lépreux, donc en Marc 1, 40 et suivant, est un texte très curieux. Parce qu'en effet, à lire comme ça, ça semble être un texte bien gentil, bien pieux. On voit Jésus qui s'émeut de compassion pour un pauvre malade et qui le guérit, et puis après tout le monde vient à lui, c'est formidable et c'est très sympathique. Mais en fait, le récit est embarrassant. Il est embarrassant et tellement embarrassant que les traducteurs et les copistes ont passé leur temps depuis 2000 ans à tourner autour du pot et à édulcorer le texte. Aujourd'hui, même sans connaître le grec, on s'en rend compte, hein, n'importe quelle Bible un petit peu, je dirais, savante, comme la traduction œcuménique ou d'autres, mettent des notes en disant « on est désolé, hein, on traduit comme tout le monde le fait, cela dit, a priori, c'est pas ce qui est écrit ». Alors, qu'est-il écrit ? Le problème, c'est d'abord au verset 21. Quand le lépreux vient vers Jésus, toutes nos bonnes Bibles disent « Jésus, ému de compassion, toucha le lépreux et le guérit ». Le problème, vous disais-je, c'est que il n'est pas écrit que Jésus est ému de compassion. Ce qui est écrit, c'est Jésus se mit en colère. Donc Jésus, en colère, tendit la main et toucha le lépreux. Déjà, ça n'est pas très évident, parce qu'on se demande évidemment pourquoi Jésus s'est-il ainsi mis en colère. Et puis ce n'est pas fini, parce qu'un petit peu plus loin, au verset 43, nos Bibles disent en général « Jésus le renvoya en lui faisant de chaudes recommandations ou d'importantes recommandations ». Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout question de recommandations, il est question d'irritation. Jésus qui ressent une violente émotion négative, qui partout ailleurs dans l'Évangile est plutôt considérée comme une sorte de rejet en quelque sorte. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut dire Jésus s'irritant contre lui, où Jésus fut agacé, énervé, et il le renvoya. Et tout à coup, on s'aperçoit que dans ce texte, Jésus certes guérit le lépreux, mais qu'il y a une véritable violence là-dedans. Et cette violence est très étonnante, parce que nous avons tous un peu tendance à avoir une image assez lisse de Jésus. Le Jésus très gentil, très doux. Et il voit des malades, il s'émeut de compassion et il les guérit. On n'aime pas voir un Jésus dur comme ça, un Jésus irrité, un Jésus dont on a l'impression qu'il guérit à contre-cœur. Enfin, on ne comprend pas cette image de Jésus. On ne voit pas, si vous voulez, ça ne correspond pas à ce que nous imaginons. Que Jésus même puisse se mettre en colère, c'est plutôt dérangeant. Vous savez qu'il y a même dans son enseignement, Matthieu 5, 22, un passage très dur où il dit « Quiconque se met en colère contre son frère est passible du tribunal ». Et il considère que se mettre en colère contre son frère, c'est aussi grave que de l'assassiner, en quelque sorte. Alors, cela a semblé tellement inacceptable à certains copistes et à certains traducteurs qu'ils ont aplati le texte pour éviter de faire des vagues. Mais si on veut prendre le texte tel qu'il est, comment peut-on justifier cette colère de Jésus ? Alors je crois qu'il y a plusieurs pistes. Il y en a la première, peut-être vue simplement en plaidant coupable, en quelque sorte. Et en disant, oui, effectivement, Jésus s'est mis en colère contre ce lépreux, parce que c'était pénible, quoi. C'est-à-dire qu'il était tranquille, et puis voilà un lépreux qui lui saute dessus pour le forcer à le guérir, et que c'était déplaisant pour lui. C'était déplaisant, ça l'a énervé, d'autant plus que le lépreux lui a forcé la main, parce que la lèpre était extrêmement contagieuse. Donc un lépreux qui se jette à ses genoux, Jésus est coincé, soit il ne fait rien, et à ce moment-là, Jésus est condamné à être considéré comme impur, comme le lépreux, et à ne plus avoir le droit d'entrer nulle part et d'être rejeté de la société, soit il le guérit. Mais d'une certaine manière, Jésus était coincé, si vous voulez, par ce lépreux. Donc apparemment, on peut imaginer que Jésus avait quelques raisons de s'énerver, mais qu'il s'énerve et que peut-être il a eu tort, mais que d'une certaine manière, ça montre que Jésus était humain. Certaines personnes sont très touchées par cela. Je ne dis pas que ce soit vrai ou juste ou bon, mais certaines personnes sont touchées par ces signes d'humanité de Jésus, parce qu'on peut y voir quelque chose de rassurant. En effet, nous, Voilà, nous ne sommes pas parfaits. Et il nous arrive de nous mettre en colère, ou il nous arrive d'envoyer balader des gens. Et même moi, en tant que pasteur, on attend que le pasteur soit gentil, toujours accueillant, toujours souriant. Et bien, il y a des jours où on n'est pas gentil, on n'est pas accueillant, on n'est pas souriant. Et à ce moment-là, c'est très culpabilisant. Alors, quand on voit que Jésus lui-même, eh bien, a pu peut-être se mettre en colère contre un lépreux, eh bien, ça me rassure. Parce que ça ne l'a pas empêché d'être le Messie ni le Fils de Dieu. C'est finalement, oui, on a tous des défauts, et voilà, c'est comme ça. Et puis, finalement, Jésus a quand même agi. Donc, il a fait ce qu'il fallait, voilà, il a fait ce qu'il fallait, il s'est un peu mis en colère, il a râlé, mais il a fait le boulot. Bon, c'est une façon de lire qui, évidemment, a ses limites. Une autre solution consiste à prendre le parti inverse. Et au contraire, à se dire, non, ça n'est pas possible que Jésus ait eu une faiblesse. Certains voient justement en Jésus l'exemple même de la perfection et de ce que nous devrions tous être. Et à ce moment-là, se dire, si Jésus se met en colère, c'est qu'il a eu raison. Et à ce moment-là, on peut se dire que si cette colère était justifiée et bonne, c'est peut-être qu'elle n'était pas contre le lépreux, mais contre la situation à laquelle il était confronté. C'est-à-dire peut-être que Jésus, voyant ce lépreux, a été pris d'une sorte de sentiment de révolte, de colère, à l'égard de cette personne à laquelle il arrivait tant de maux, tant de problèmes, et qui en plus, non seulement était malade, et en plus était rejetée de tous les autres. Non seulement elle est malade, non seulement elle souffre, cette personne, et en plus, la société la rejette, l'exclut, et même l'Église, le temple, la synagogue, les religieux, qui eux devraient s'approcher de lui en disant « Mais mon frère, tu souffres, moi je t'accueille. » Eh bien même eux disaient « On ne veut pas te voir. » Et les lépreux n'avaient pas le droit d'aller au temple, pas le droit de pratiquer la religion, pas le droit de faire les sacrifices. Ils étaient non seulement exclus de tout cela, mais même le discours religieux de l'époque, c'était de dire « Si vous êtes lépreux, c'est que Dieu l'a voulu, vous avez du péché, c'est une punition de la part de Dieu. » Donc cette lèpre n'est que le signe de votre imperfection, de votre péché, de votre misère morale et spirituelle. Et donc finalement, je dirais, l'Église de cette époque en rajoutait encore une couche par là-dessus. Et Jésus, certainement, on peut l'imaginer, voyant non seulement cet homme qui souffre, mais tout ce système social qui visait, je dirais, à aggraver la situation en l'excluant, est pris d'une immense colère et dit « ça n'est pas possible, il faut réagir contre ça ». Et il va réagir en le guérissant, en le réintégrant dans la société et lui dit « Tiens, maintenant, tu vas te montrer au prêtre et ça lui fera les pieds, excusez-moi, c'est un peu ce qu'il dit, ça lui servira de témoignage », dit le texte. C'est-à-dire peut-être que ça lui fera comprendre qu'il y a des choses, je dirais, qui ne se font pas. Alors voyez-vous, peut-être y a-t-il effectivement cette colère qui est assez intéressante de la part de Jésus. Et pour nous, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, alors on nous parle et on nous bassine, je dirais, de tolérance. Et c'est vrai que, bon, c'est bien la tolérance. C'est bien si c'est le fait d'accepter qu'il puisse y avoir des protestants et aussi des catholiques, d'accepter qu'il puisse y avoir des évangéliques qui prient en levant les mains au ciel, si c'est d'accepter qu'on puisse lire la Bible dans une autre traduction et je ne sais quoi. La tolérance, c'est très bien. Mais en soi, il est évident que la tolérance n'est pas toujours une vertu. Il y a de l'intolérable, il y a certainement des révoltes qu'il faut avoir, il y a des combats qu'il faut mener, il y a, comme on disait autrefois, des saintes colères qui sont absolument indispensables. Donc oui, on peut imaginer ce Jésus qui là se met en colère contre cette situation, parce que il est bien de réagir ainsi. Le tout, c'est de savoir contre quoi on se met en colère. Le tout, c'est de ne pas se tromper, de ne pas se tromper d'objet. Mais en soi, il y a, je crois, dans la colère une dynamique qui peut être extraordinairement créatrice. Sans colère, avec tolérance, il n'y a plus rien. Et ça me fait penser à un texte qui peut sembler un petit peu très, je dirais, un petit peu trivial et très... un petit peu trivial, oui, un petit peu vulgaire, mais qui est d'un auteur pour lequel j'ai par ailleurs une certaine estime, qui est San Antonio. Alors, ce n'est pas un saint qu'on cite souvent du haut de la chaire, mais vous allez comprendre pourquoi je le cite. Parce qu'il a écrit un texte qui, d'ailleurs, a été repris dans la très sérieuse revue de la Société des missions protestantes qu'il avait mise, et c'est là que je l'ai trouvé. Et San Antonio dit la chose suivante. « Il n'y a qu'une vertu en ce monde, c'est la charité. Et la charité, c'est quoi ? De la colère, uniquement de la colère. Car la charité, ça consiste à s'indigner. La charité, ça n'est pas de chialer sur la misère du monde, mais c'est de la combattre. La charité n'est pas humble, elle est belliqueuse. La charité, c'est de l'amour. Et en amour, il ne faut jamais s'aplatir, parce que ça, c'est inopérant et négatif. La carpette, jamais. Dieu a horreur des serpillères. » Eh bien, je suis désolé, mais je suis assez d'accord avec ce texte. Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez beau et d'assez vrai. Et donc, les copistes et les traducteurs, je crois, ont eu tort d'enlever cette aspérité que je crois particulièrement intéressante dans cet évangile de Marc. Cela dit, la chose semble quand même plus compliquée que cela. Parce que, admettons que ça puisse là donner une réponse à la question de la colère, mais un peu plus loin, au verset 43, il semble bien que Jésus, quand même, s'irrite contre le lépreux. Et donc, je crois que cette solution, finalement, même si elle est intéressante, ne permet pas d'aller jusqu'au fond du texte. Oui, au verset 43, il semble que Jésus s'irrite contre le lépreux, et en tout cas, il l'envoie quand même balader assez vertement. Il le renvoya. « Allez, va-t'en, et ne parle à personne, et ne dis rien. » Bon, je dirais comme envoi d'exhortation, de bénédiction, etc., c'est assez léger. En tout cas, j'essaye d'être plus poli à la fin d'un culte. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que ce renvoi brutal a quelque chose de positif, parce qu'on voit que Jésus guérit le lépreux, mais qu'il ne cherche pas à le garder sous sa coupe. Il ne lui dit pas, bon, allez, maintenant que je t'ai guéri, reste avec moi, sois reconnaissant et va proclamer les louanges de Dieu, etc. Il l'autonomise. Il lui dit, bon, écoute, mon gars, bon, c'est bon, maintenant t'es guéri, allez, tu vas vivre ta vie, et puis c'est tout, on va pas non plus rester des siècles là-dessus. Il le rend à la société. Il lui dit, ben tiens, y a ta religion, t'es juif. Bon, dans ta religion, on demande d'aller offrir des sacrifices. Quand t'es guéri, ben allez, va faire ça. Ce passage-là a posé énormément de problèmes, d'ailleurs, aux commentateurs de l'Ancien Temps, qui disaient comment Jésus peut-il inciter ce personnage à aller offrir les sacrifices juifs pour sa guérison, alors que normalement, il devrait en être dispensé. Mais justement, je crois que Jésus n'accordait pas une grande importance au sacrifice au temple, mais il réinsère le lépreux dans sa société, dans sa religion, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de profiter, de récupérer cette guérison pour son profit, pour lui-même. Bon, admettons, mais alors quand même, Jésus l'engueule en quelque sorte. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, je vous l'ai dit un petit peu au début, je crois que Jésus, revenons-y, Jésus va le guérir certes, mais en même temps Jésus sait très bien que s'il fait ça, ça va lui coûter un prix très très important à lui-même, à Jésus. Jésus sait que s'il agit ainsi, il va y avoir des conséquences pour lui qui vont être beaucoup plus considérables qu'on ne l'imagine. Parce que d'abord, il va se mettre à dos les prêtres, parce qu'en effet, je vous disais, pour eux, la lèpre était la juste punition divine. Donc Jésus va se permettre de guérir un lépreux sans vérifier, sans valider que cette personne le mérite, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne demande pas si le lépreux s'est racheté, s'il a bien demandé pardon pour ses fautes, s'il est bien revenu à de meilleurs sentiments, etc. Jésus ne sait rien de ce lépreux, il voit qu'il souffre et il retire la lèpre. C'est-à-dire que Jésus, d'une certaine façon, retire la punition sans se préoccuper de savoir si elle était méritée ou non. C'est un peu comme si aujourd'hui, voyant n'importe quel prisonnier, je disais, bon, très bien, allez, t'es libéré, mais je ne sais même pas ce qu'il a fait, ni pourquoi il est en prison, ni pourquoi il a été condamné. Et donc ça, c'est quand même, ça ne se fait pas, si vous voulez, ça ne se fait pas. Hein. Et donc forcément, Jésus, là, agit, enfin, vu du côté des prêtres, Jésus agit avec une certaine, je dirais, liberté, qui est quand même très problématique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Jésus... finalement, traite à la légère, je dirais, la punition divine, traite à la légère, distribue la grâce de Dieu, je dirais, sans beaucoup d'attention, et finalement, va un petit peu vite. Et d'autre part, donc il allait se mettre les prêtres à dos, et d'autre part, c'était aussi très engageant de guérir un lépreux. Parce que dans la tradition juive, on attendait le Messie. Et le Messie devait se reconnaître à plusieurs gestes. Et les deux principaux, c'était que le Messie guérirait des lépreux et qu'il ressusciterait des morts. Alors, si Jésus guérit un lépreux, en gros, c'est une sorte de grosse affiche pour disant « Je prétends être le Messie ». Alors, apparemment, Jésus voulait bien passer pour le Messie, mais apparemment, il n'était pas tout à fait prêt à le faire. Et il retardait un peu le moment. Et c'est pourquoi il semble que Jésus, finalement, disait « Bon, ben, oui... » n'avait pas très envie quand même de le faire, voilà. Parce que se faire reconnaître comme Messie, c'était une chose qui était finalement pas forcément très confortable non plus. Alors, on a l'impression effectivement que Jésus, donc là, prend conscience de la gravité du geste que lui demande le lépreux. On a l'impression qu'il veut minimiser les conséquences en disant « bon, surtout ne le dis à personne », etc. Je ne crois pas que ce soit vrai, parce que là, il y a encore une autre contradiction du texte. Jésus dit à la fois « ne le dis à personne » et ensuite, et surtout, mais va bien le dire au prêtre. Alors bon, il faut savoir ce qu'on veut, ou on le cache ou on ne le cache pas. Je pense que cette expression « ne le dis à personne » n'est pas du tout pour minimiser l'importance de son geste, mais c'est plutôt parce que Jésus ne voulait pas passer pour un guérisseur et un thaumaturge. Et je dirais, il dit « bon, bah, allez, d'accord, je te guéris, mais... va pas le répéter partout, parce que sinon je vais passer mon temps à guérir des gens, et moi mon objectif c'est pas simplement de guérir matériellement des gens, c'est finalement quelque chose d'autre. Peut-être que c'est pour éviter justement une mauvaise interprétation de cette guérison, qui n'aurait été qu'une guérison purement matérielle et médicale. Bon, je ne sais pas. Et en tout cas, ça montre que Jésus ne faisait pas des miracles pour faire sa publicité, mais au contraire, il voulait un petit peu éviter ça, dirais-je. Alors, quant aux conséquences de son geste, Jésus va les assumer. Il sait que ça va lui poser des problèmes, parce qu'il s'oppose, je vous disais, au système de la religion, parce qu'il va réintégrer quelqu'un de force dans la communauté d'où il avait été exclu. D'une certaine manière, il va forcer la main, je dirais, de la communauté religieuse, et que ça aura des conséquences. Donc, Jésus le sait, et il montre, en quelque sorte, par son attitude... qu'il a conscience qu'en agissant, ça va lui coûter et que ça ne sera pas simple. Donc autrement dit, Jésus râle, mais finalement, il n'hésitera pas à le faire tout en montrant que ça lui coûte et il l'assume. En fait, je vous disais, le lépreux, on a l'impression, le pousse à se révéler un peu plus vite qu'il n'aurait voulu. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres évangiles, comme dans l'évangile de Jean avec Cana. Vous savez, quand Marie lui dit « ils n'ont plus de vin », et Jésus dit « mais mon heure n'est pas encore venue », on a l'impression là aussi qu'il n'a pas envie de se révéler. Et finalement, il le fait quand même. C'est-à-dire que là aussi, Jésus va être en quelque sorte poussé dans ses retranchements et poussé à agir par quelqu'un d'autre. Comme si Jésus, finalement, avait du mal à se décider et qu'il était un peu contraint, je dirais, par les événements à le faire. Mais ça nous montre effectivement qu'il n'est pas si simple de se jeter dans le monde, qu'il n'est pas si simple d'aller agir, qu'il n'est pas si simple d'aller donner aux autres, et qu'il y a toujours en nous des réticences, je dirais, des freinages qui sont créés par notre vieille nature, peut-être par notre égoïsme qui voudrait qu'on reste tranquille et qu'on reporte à plus tard, je dirais, le saut que nous avons à faire dans le service et dans le don de soi. Parce que nous n'avons pas trop envie d'avoir de problèmes. Alors je dirais que la qualité de Jésus, c'est qu'il renâcle un peu, certes, mais finalement il accepte de se laisser déranger par l'autre. Sans doute a-t-il été touché par la démarche du lépreux. Bon, sans doute a-t-il vu chez ce lépreux une sorte d'audace, une sorte de liberté. Ce lépreux qui transgresse la loi, en venant le voir, le lépreux, d'après la loi, devait rester au moins à 10 mètres de quiconque. Bon, le lépreux dont transgresse la loi en venant vers Jésus, il aurait dû rester à l'écart, mais finalement, le lépreux, je dirais, ajoute un péché à tous les péchés qu'on pouvait lui supposer. Et je pense que ça, finalement, ça plaît assez à Jésus, cette espèce de transgression. Et il montre en plus une grande confiance en lui. Et donc, ça va plaire à Jésus qui, à mon avis, va entrer dans ce système. Mais, comme je vous le disais, quand même en sachant le coût que ça va lui coûter. Je trouve que là, il y a aussi un enseignement assez important. Parce que je ne veux pas le voir là comme une faiblesse de Jésus, cette réticence qu'il montre, mais plutôt comme le fait que Jésus assume pleinement le prix que ça lui coûte. En effet, je trouve qu'il est toujours un petit peu, peut-être démobilisant, d'imaginer que Jésus fait tout sans que ça lui coûte rien, et en disant, oh ben lui, à la limite, il guérit les gens, il se fait crucifier, tout ça, il est ravi, c'est sa nature, il est sympa Jésus, donc ça lui pose aucun souci. Et de même, les chrétiens, ils doivent donner parce qu'ils aiment bien donner. Alors, ça leur plaît de donner autant qu'ils donnent. Puis servir, oui, pas de problème, ils sont ravis de servir. Les chrétiens, ils aiment bien rendre service, donc il n'y a même pas besoin de les remercier. Eh bien là, ça nous montre, et c'est peut-être important aussi même pour les jeunes, ça nous montre la différence entre le chrétien et le pigeon, entre le chrétien et la bonne poire. La bonne poire et le pigeon, c'est celui où on dit, tiens, il y a une poubelle à vider, il dit, ah ben oui, moi j'y vais, j'adore vider les poubelles. Bon, très bien, c'est le pigeon de service, et tous les autres sont contents. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien, à la limite, il va dire, ben vous savez, moi ça ne m'amuse pas plus que vous de vider les poubelles. Mais comme il faut bien que quelqu'un le fasse, eh bien moi je vais le faire. Ça donne une valeur infiniment autre au geste. Ou alors il va dire, moi je déteste vider les poubelles, mais comme je pense que vous aussi, eh bien, si vous voulez, pour vous éviter de le faire, moi, je vais le faire. Alors là, le geste devient tout à fait autre chose. Et je pense que peut-être y a-t-il justement dans cette attitude de Jésus quelque chose comme ça, qui montre qu'il fait quelque chose en ayant conscience de ce que ça va lui coûter. Et de fait, ça va lui coûter beaucoup. Le texte est assez étonnant parce que, je vous disais qu'au départ, le lépreux était celui qui était rejeté loin de la société, condamné à traîner dans les déserts. Or, à la fin du texte, le lépreux retourne dans la ville, et qui est condamné à errer dans les déserts ? C'est Jésus, dont on nous dit qu'il ne pouvait plus entrer dans aucune ville, il se retirait dans les lieux déserts, et là, les gens venaient à lui. Ça veut dire que d'une certaine manière, je dirais, là, psychologiquement, spirituellement, il a guéri le lépreux, mais Jésus va hériter, je dirais, des conséquences de la lèpre du lépreux à sa place. Alors là, tous ceux qui ont un petit peu de goût pour la théologie de la croix vont voir qu'il y a là quelque chose qui est, je dirais, évoqué et qui est très très fort, qui est le fait que Jésus, finalement, va se charger, je dirais, de la peine qui était normalement, qui devait revenir sur l'autre, et il va se charger de cette peine pour que l'autre ne l'ait pas. C'est ce que l'on enseigne d'habitude à propos de la croix, à tort ou à raison, sur le fait que Jésus se charge finalement de nos péchés pour nous en libérer. Jésus qui joue ce rôle de bouc émissaire et qui accepte de donner sa vie, il la donne joyeusement, mais il la donne en ayant conscience du prix que ça lui coûte, comme tout chrétien est appelé à donner sa vie, mais pas à la brader. Amen.